Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais commencer mon émission par l'évocation d'un patrimoine mondial en danger. C'est paru dans Campagne solidaire du mois de juin 2013. C'est vieux et pourtant, je pense que c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Aux origines de la pomme. Fondée en 2010, l'association ALMA s'est fixée pour objectif de mobiliser la communauté internationale et les autorités politiques et scientifiques kazakhs pour la sauvegarde d'un patrimoine inestimable, les forêts de pommiers sauvages Malus-Sieversii. En 2000 et quelques, Catherine Peix a réalisé un film sur les forêts primaires du Kazakhstan et l'histoire d'Aymak Djargaïliev, les origines de la pomme ou le jardin d'Éden retrouvé. Le film de 52 minutes a déjà été diffusé sur Arte et France 3. Il est possible de se le procurer sur le site de l'association ALMA, sur lequel on peut également adhérer ou louer une exposition photographique tout aussi remarquable. Donc, on a peine à imaginer dans les montagnes de l'est du Kazakhstan s'épanouissent depuis 65 millions d'années de vastes forêts primaires de pommiers. L'arbre de la famille des rosacées a une reproduction sexuée de sorte qu'existe autant d'individus uniques que d'arbres. L'adaptation, la variabilité y sont remarquables. Des arbres de parfois plus de 30 mètres de haut, de plus de 300 ans. D'autres accrochés à plus de 3000 mètres d'altitude. D'autres encore adaptés aux températures extrêmes de la steppe. Et donc, des pommes de toute taille et de toute couleur. Un réservoir immense d'une richesse inouïe, à l'heure où s'appauvrissent génétiquement les variétés cultivées à travers le monde, ultra sensibles à toutes les maladies, inondées en retour de pesticides. Parmi les 40 espèces sauvages de pommiers recensées dans le monde, celle-ci, Malus sieversii, est celle qui, au cours du temps, a évolué pour être à l'origine des pommes que nous trouvons aujourd'hui dans le commerce. Mais ce patrimoine remarquable est menacé. Catherine Peix est cinéaste, chimiste et biologiste de formation. Lorsqu'elle apprend par un chercheur du CNRS l'existence de ces forêts et celle d'un chercheur kazakh, Aymak Djargaïliev, qui leur a dédié sa vie, Elle n'a eu de cesse que d'aller voir les arbres et l'homme. Durant presque toute sa vie de scientifique, celui-ci aura été discrédité par le pouvoir soviétique sous la tutelle de l'agronome Lysenko et de ses théories fumeuses de soumission de la nature à l'homme, à la science et à la technique. Transmission de flambeau. Lorsque Catherine Peix retrouve après une enquête romanesque. Nous sommes en 2006. Djargaïliev a 94 ans. Et juste le temps de transmettre le flambeau avant de mourir 3 ans plus tard. Depuis, la cinéaste consacre l'essentiel de son activité à faire connaître les forêts primaires de pommiers afin de les protéger et d'assurer la continuité des recherches sur ce patrimoine unique au monde. Pour cela, elle a créé en 2010 l'association ALMA, pomme en kazakh, avec Tatiana Salova, agronome et épouse d'Aymak Djargaïliev. ALMA, dépositaire de l'œuvre du chercheur, valorise et... valorise et poursuit son travail afin qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Elle milite pour une recherche agronomique tournée vers l'avenir et la protection des 27 variétés, entre guillemets, de la variété originelle de pommier qui, résistante aux maladies, avait été sélectionnée par le chercheur. Le potentiel de ce pommier est considérable et donc et doit être valorisé dans la justice et l'équité. Alma agit auprès de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient politiques, scientifiques ou de filières privées, pour encourager une valorisation garantissant la sauvegarde du patrimoine sauvage. Il est plus que temps d'agir. Au ravage de Lysenko, ses déforestations et ses tentatives de remplacer les espèces sauvages par des espèces cultivées succèdent ceux de l'oligarchie khazar. Pour la plupart, ce sont d'anciens dirigeants soviétiques reconvertis sans scrupules dans l'affairisme le plus débridé. Des projets d'infrastructures et de complexes divers, touristiques notamment, menacent les forêts de sorte de pommiers. Alma tente de tisser des relations et partenariats avec des universitaires ou diplomates pour alerter l'opinion, sensibiliser et empêcher le saccage. Tout naturellement, l'association travaille en France en collaboration avec les croqueurs de pommes. Regroupant une soixantaine d'associations locales, les croqueurs de pommes œuvrent à la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition. Pour autant, pas question pour Catherine Pex de précipiter les choses. La demande est forte de plants et boutures de Malus sieversii, mais pour l'animatrice d'Alma, il faut avant tout éviter les perturbations génétiques incontrôlables, tout autant que des commerces inopportuns. Cela n'exclut pas les échanges scientifiques de matériel, déjà entamés, ou d'autres, à plus ou moins long terme, dès lors que les processus d'études et de partenariat seront bien définis et respectés. En attendant, que vous soyez arboriculteur, professionnel, simple jardinier, ou seulement curieux de cette belle histoire, vous pourrez adhérer à Alma et soutenir son travail. C'est un article signé de Benoît Ducasse. Du dossier de campagne solidaire du mois de mars, je tire donc quelques lignes des normes adaptées à l'agriculture paysanne. Les normes et l'agriculture paysanne. Faut-il des normes? Et si oui, lesquelles? Les normes sont sociétales, environnementales, sanitaires. Elles sont liées à la modernisation de notre métier. Cette modernisation qui est arrivée pour améliorer nos conditions de travail, mais qui par la suite a conduit certains et certaines vers une agriculture industrielle en faisant disparaître tant de paysannes et de paysans. Aujourd'hui, le développement de cette agriculture productiviste multiplie les problèmes environnementaux et sanitaires. La mise en place de normes se montre alors nécessaire. Les normes effraient par la responsabilité qu'elles engendrent et par les investissements induits, créées pour former un cadre entre guillemets à ne pas dépasser. Elles sont trop souvent détournées dans des buts de profit économique ou d'homogénéisation disproportionnée par rapport à la taille de nos fermes et avec peu d'intérêt pour la vraie qualité de nos produits et de notre métier. Et je vous lis dans ce dossier, quelques articles. Lutter contre des normes inadaptées et hors sol. Gestion du risque. Nous serions des enfants ignorant les risques sanitaires. Puçage obligatoire. Obligation de vacciner contre la fièvre catarrhale ovine. Certification obligatoire des mâles reproducteurs ruminants. Retour sur 5 années de bataille contre la normalisation sanitaire, entre guillemets. En 2011, la bataille contre l'obligation vaccinale des troupeaux face à la fièvre catarrhale n'a pas servi à rien. Cette norme sanitaire a été revue et très assouplie du point de vue de l'obligation de vacciner. C'est ce qu'on a pu observer lors de la réapparition de la fièvre catarrhale sérotype 8 en France en 2015. Mais elle impacte encore les éleveurs empêchés de vendre leurs animaux sur tout le territoire ou à l'export, selon la zone où ils se trouvent. Du moins sans analyse négative coûteuse et désinsectisation. Rappelons que cette maladie n'est pas contagieuse, que ces procédures ne protègent pas de la diffusion de la maladie et ont déjà gravement impacter les abeilles par les insecticides qu'on a répandus pour empêcher cette maladie. Une autre norme dans l'élevage des ruminants a été celle de la certification obligatoire des mâles reproducteurs ruminants prévue en 2015. Les éleveurs et éleveuses n'auraient plus eu la possibilité de sélectionner eux-mêmes la génétique de leurs troupeaux, sauf à faire certifier leurs reproducteurs. Elle a heureusement été abrogée par la loi d'avenir agricole de 2014. Quant au puçage obligatoire des seuls petits ruminants dont on peut remercier une coopération typiquement française, administrative, la direction céréale de l'alimentation, institut de l'élevage, professionnel et industriel. Il a été imposé par la conditionnalité des primes. Certains y ont perdu jusqu'à 25 000 euros. Il y a eu de nombreuses manifestations et actes de désobéissance, d'abord contre l'obligation, puis contre les rétorsions financières. En juin 2015, l'administration a finalement réduit ses peines financières, françaises et européennes, à coups de pénalités automatiques, et concentre depuis les sanctions sur l'aide ovine. Il faut rappeler que la puce permet l'accès informatisé des données à l'Institut de l'élevage qui monopolise l'enregistrement le suivi des cheptels et peut marchander ces données. D'autre part, une exploitation en génétique est aussi possible grâce aux derniers travaux de nos brillants bricoleurs en ces matières. Ces outils favorisent, on l'a vu, une extension sans fin des troupeaux et automatisent leur gestion à grande échelle au détriment de l'élevage et au profit des productions industrielles qui sont sa mort. Les éleveurs et éleveuses seraient des enfants ignorant la conscience qu'ils ont des risques sanitaires, surtout encourus à force d'injonctions à augmenter leur productivité avec leur cheptel. La normalisation sanitaire focalisée sur les seules pratiques standards, tels que traitements chimiques obligatoires, vaccins, traçabilité, identification informatisée, est aussi sans égard pour l'élevage qui est attentif aux équilibres dynamiques et vivants. Dans un monde de normes au service d'une domination des entreprises industrielles de tout ce qui bouge ou pas, la résistance anticonformiste en élevage a encore de beaux jours devant elle. Signé Antoine de Ruffray, paysan dans les Alpes de Haute-Provence. Un autre article, lutte contre les ravageurs, une sortie collective des traitements chimiques obligatoires. Notre action a commencé en 2005, dès que nous avons appris que le Haut-Vaucluse passait en lutte obligatoire contre la flavescence dorée, cette maladie de la vigne. Nous avons rassemblé les résistants à cette lutte chimique obligatoire, dont le but déclaré, éradiquer toutes les cicadelles, insectes vecteurs de la maladie, leur semblait illusoire. Cette éradication prévoyait des déversements massifs de pesticides, fort dommageables pour la santé des cultures, des applicateurs et de tous les habitants de la région. Très vite, nous est apparue la nécessité de dépasser le stade des résistances privées, des divisions entre bio et non bio, adhérents ou non de la Confédération paysanne, et d'organiser une lutte collective. Nous répondions cela au souhait du service de la protection des végétaux, qui en jugeait les viticulteurs et viticultrices incapables, justifiant ainsi le traitement chimique obligatoire imposé. Il fallait d'abord que la profession fasse preuve de responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics pour pouvoir ensuite demander à sortir collectivement des traitements obligatoires. La forme qu'a pris cet engagement a été l'organisation, dans chaque commune concernée, d'une prospection complète du vignoble afin de détecter les symptômes éventuels de flavescence sur les ceps, puis l'analyse des échantillons par la société, la SPV, et enfin l'arrachage systématique des ceps atteints. Parallèlement à ce travail, la Confédération paysanne du Vaucluse a mis l'accent sur la dangerosité des pesticides, défendu les pratiques alternatives, soutenu les résistants qui revendiquaient publiquement leur refus de traiter en l'absence avérée de cicadelles. Nous avons très vite constaté en 2-3 ans que le travail de terrain portait ses fruits. Les foyers de flavescence ont régressé et plusieurs communes sont sorties de la lutte obligatoire. Mais hélas, c'était sans compter avec les jeunes plants infectés, dont l'arrivée dans le vignoble chaque année provoquait de nouvelles contaminations. Nous en sommes donc venus aujourd'hui à mettre en avant la nécessité d'obtenir des pépiniéristes des plants passés à l'eau chaude, seule méthode permettant d'éviter tout risque de maladie. Mais les pépiniéristes dont les pratiques industrielles affaiblissent les plants refusent de passer leurs plants à l'eau chaude par peur de problèmes à la reprise. Le nœud du problème est bien à ce niveau. Il faut donc maintenant mettre l'État devant sa responsabilité pour qu'il fasse appliquer cette règle sanitaire élémentaire. Jean-Claude Leroux, paysan dans le Vaucluse.
Tu sais l'ami, c'est pas facile d'expliquer pourquoi on se bat. Ma campagne est loin de la ville, c'est dommage on ne se connaît pas. Pourtant chacun à notre façon, on se pose les mêmes questions. C'est le même vent qui nous malmène, deux maillons sur la même chaîne. Toi tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne pour l'agriculture paysanne.
toi, c'est comme ici. C'est pas les gens qui font les lois, c'est la finance et l'industrie. Sans s'occuper du résultat, nous on laissera pas s'envoler pour des bénéfices à court terme. Tous nos savoirs accumulés, nos bonheurs de vivre à la ferme. Toi tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On veut rester à la campagne, vive l'agriculture paysanne.
Toujours dans Campagne solidaire du mois de mars, je vous lis un article concernant une initiative aux portes de Paris. Ni Dieu, ni maître, ni supermarché, pas de président, ni de bureau, ni de statut, ni même de réunion formelle. À Saint-Denis, aux portes de Paris, une AMAP et une coopérative alimentaire se veulent clairement libertaires, même si les foyers qui la font vivre et s'y approvisionnent ne se revendiquent pas tous de l'action politique. En 2008, à l'initiative de deux militants anarchistes de Saint-Denis, banlieue de 100 000 habitants au nord de Paris, la Dioniversité donne ses premiers cours à la Bourse du Travail de la ville. L'université populaire, inspirée de ses ancêtres, entre guillemets, qui prospérèrent à la charnière entre 19e et 20e siècle, rencontre rapidement le succès. En 4 ans, 264 cours sont proposés, réunissant plus de 8000 auditeurs. De cette première dynamique émerge l'idée, portée par un groupe de jeunes, de créer une AMAP, du moins quelque chose s'inspirant du modèle faisant vivre dans la durée un partenariat direct entre paysans et paysannes et consommateurs, et consommatrices bien sûr. En mai 2010, l'Université populaire invite à deux réunions publiques pour lancer le projet. 200 personnes y participent, dont 70 acceptent de soutenir le démarrage d'activités d'un jeune maraîcher à une douzaine de kilomètres de Saint-Denis. À peine 5 mois plus tard, les premiers paniers de légumes sont livrés à la MAP, court-circuit. Qui dit AMAP dit A comme association, mais ici c'est pour signifier la démarche, car d'association, il n'y en a pas vraiment. C'est la Dioniversité, constituée en association formelle, qui chapeaute l'ensemble de l'activité. À la MAP, le fonctionnement est des plus informels, chacun prend initiative, responsabilité et relais. On se propose comme référent pour les relations avec les paysans, la collecte des chèques, les visites des fermes, on se passe les clés du local de l'un à, ou l'une à l'autre, on s'inscrit pour les permanences et la constitution des paniers lors des livraisons en vrac par les producteurs. Le local est loué au bailleur social de la communauté d'agglomération. Les Amapiens et Amapiennes versent 7 euros tous les 6 mois pour cela. Le bail est signé en bonne et due forme, pas de ristourne ni de subvention des institutions, question de principe et d'indépendance. À ce jour, 250 foyers s'approvisionnent en légumes par le biais de deux maraîchers, des œufs et pains lors de 3 livraisons, distribution hebdomadaire. Les paniers sont à 10 euros, bien garnis. Ceux qui ne sont pas retirés sont récupérés par l'association Femmes Solidaires et distribués dans la ville à des familles pauvres. Les participants ont de 18 à plus de 80 ans. Plus de 2/3 ont entre 30 et 60 ans. La grande majorité est diplômée, beaucoup de bac plus 4 ou 5, mais précaires. La dynamique s'entretenant d'elle-même, la MAP génère d'autres initiatives, tels que le local accueille un atelier de réparation de vélos, une bibliothèque en libre service de 900 ouvrages, des projections de documentaires. Comme l'écrivent Philippe Rollin et Jean-Claude Richard, les deux inspirateurs de l'Université populaire, il s'agissait dès le départ d'envisager un collectif laissant l'entière liberté et l'initiative individuelle ou de groupe, tout en sachant très bien que la qualité du résultat serait le seul critère de jugement quant à la contribution, à la continuation ou à l'arrêt d'une initiative. Une COP pour aller plus loin. C'est cette dynamique qui a poussé les Amapiens à aller plus loin en créant la Diony COP, installée depuis mai 2015 à quelques centaines de mètres du local de la MAP. Ici aussi, chacun et chacune prend initiative et responsabilité. 250 personnes font tourner la coopérative alimentaire, dont une centaine participent aussi à la vie de la MAP. Chacun et chacune verse ici 20 euros de participation annuelle pour le paiement du loyer, puis inscrit sur un cahier la somme qu'il ou elle verse en avance dans la caisse qui servira au paiement des commandes. Tout se règle par chèque. Au moment de l'achat, on retranche la somme sur son compte en veillant à pourvoir régulièrement celui-ci de sorte que, si possible, 50 euros minimum y restent provisionnés. Pour les fournitures qui proposent un produit sans s'en occupe, il ou elle teste, questionne, puis demande au référent trésorier du moment si il ou elle peut engager la dépense pour la commande. Ensuite viendra la mise en rayon. Du succès ou de l'échec dépendra la poursuite de la distribution du produit. Pas de cahier des charges formel, mais les produits proposés sont de fait en majorité bio. Pour l'instant, on trouve de l'alimentaire et quelques produits d'entretien, pas encore de produits frais ou de vrac, mais quand même déjà 700 références. Et ça marche, à la grande satisfaction de Jean-Claude Richard. Quand nous avons fait l'inventaire fin décembre, après plus de 7 mois de fonctionnement, tout était juste à l'euro près. D'où l'envie d'inciter et ensemencer d'autres projets similaires dans la ville et les environs.
Ils m'adressent leurs chansonnettes avec au cœur un fol espoir, comme si j'avais le pouvoir de faire d'eux une vedette. De notre métier à facettes, on ne leur montre évidemment que le bon côté des paillettes sous les projecteurs éclatants. On se couche quand ils se lèvent, le monde est beau et souriant, et notre vie n'est plus qu'un rêve dans leur tête d'adolescent. L'argent, l'amour, les grands voyages, la gloire acquise à bon marché, toute la panoplie d'usages que dément la réalité. Chanter, ce n'est pas ce qu'on vous proclame. Chanter, il faut s'y jeter à tue-tête, à bras le cœur, à fendre l'âme, avec un seul point au programme, celui de n'être sûr de rien, celui de n'être sûr de rien. Avoir une santé de fer, de la chance avec le talent, et cette faculté de faire un sourire en serrant les dents. En écoutant claquer les portes sur votre nez à deux battants, penser le diable les emporte, croire en hiver à son printemps. Pour une vedette miracle, j'en ai tant vu depuis 10 ans, depuis 20 ans encore qui racle leur guitare dans les beuglants.
Leur vie passe par des lueurs d'espoir et de renoncement. On les voit marcher lentement, un vers qui leur ronge le cœur. Chanter, c'est parfois comme un mélodrame. Chanter face à face avec soi.
Amis auditeurs, c'est avec Jean Ferrat que je vous quitte. Je vous remercie de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur FM Plus à la même heure, mardi prochain à la même heure. Et je vous souhaite une très bonne semaine.
Chanter n'est pas faire semblant.